Si vous voulez vous tourner avec moi dans Romains, on va continuer notre étude dans Romains 8 ce matin. J'aimerais commencer en lisant, je vais lire tout le chapitre avec vous pour qu'on puisse se remettre dedans. Verset 1 du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la gloire, à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions encore. Seigneur, merci pour ce passage. Merci pour ton glorieux plan dans l'histoire humaine et dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce matin ce texte, à en saisir la signification pour nos vies, Seigneur. Parle-nous ce matin, aide-moi à dire ce que tu veux, Seigneur. Nous te remercions pour ce temps ensemble. En ton nom, nous prions. Amen. Nous continuons donc l'étude. On était arrivé jusqu'au verset 27. Pierre avait parlé du fait que l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse et que l'Esprit pousse des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Ce qu'on voit au verset 26, il avait parlé du pont des soupirs de Venise. Et j'avais parlé, moi, au début du chapitre 8 et à des moments précédents sur l'idée qu'il y a des réalités et des choses, des vérités que nous ne voyons pas avec nos yeux et que nous avons du mal avec ces choses parce que nous voyons, nous vivons des choses, nous avons une vue humaine, nous avons tendance à regarder à l'extérieur, nous avons du mal à voir les cœurs, à voir les réalités spirituelles. Et le chapitre 8 est rempli de vérités et de choses qui sont des réalités, des choses qui sont vérités, qui sont vraies, mais que nous ne voyons pas forcément et que nous devons croire, que nous devons accepter et croire comme étant vraies. Et c'est difficile, on en avait déjà parlé. On voit le monde autour de nous, on voit les difficultés, on voit les choses qui vont mal, nos vies sont difficiles, nous souffrons, nous avons du mal à, comme Paul dans le chapitre 7, nous avons en tant que chrétiens parfois du mal à vivre comme Dieu nous le demande, on a l'impression qu'on est en lutte permanente et on dit mais comment concilier ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens avec ce que j'entends ou ce que je crois, et il nous faut le croire. Et le chapitre 8 est plein, on voit que nous ne sommes pas condamnés si nous sommes en Christ Jésus, que nous sommes libres de la loi du péché et de la mort, que nous avons l'Esprit Saint en nous, qu'il nous a fait naître de nouveau. La Bible nous explique que l'Esprit de Dieu est en nous. On a vu les fois précédentes que nous sommes les enfants adoptifs de Dieu, que nous avons une position, on l'a lu, que nous sommes co-héritiers avec Christ, que nous sommes sur le testament de Dieu en quelque sorte, que nous allons prendre part à la gloire de Dieu si nous souffrons avec lui, avec Jésus, que nous espérons être libres de nos corps et de cette lutte dans la chair. Et nous avons vu que nous avons de l'aide, nous avons l'Esprit Saint qui nous vient en aide. Et donc c'est les versets 26 et 27, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Dieu nous aide, il nous a donné des commandements, mais il ne nous laisse pas simplement avec ces choses, il nous donne une aide en nous pour nous changer, Pierre avait parlé du fait que tous les chapitres avant, dans Romains, on ne parle quasiment pas de l'esprit. On voit que l'homme est condamné, que l'homme est dans le péché, que par ses propres efforts, il n'arrive à rien, que sans Jésus, sans la foi, on va pas y arriver, qu'il y a un problème depuis Adam jusqu'à maintenant, dans notre nature humaine, que nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et au verset 8, il arrive jusqu'à la fin du chapitre 7 et il nous dit, on n'y arrive pas, comment je vais m'en sortir? Et puis il dit, mais non, en fait, en Jésus, il n'y a plus de condamnation parce que l'esprit. Et ici, on voit que l'esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Notre faiblesse qui est que nous ne savons pas quoi demander, nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas. Nous sommes souvent dans notre vie, dans les situations, par exemple avec ce qui est arrivé à Petra, on voit cette situation et on dit mais pourquoi ? Et on ne sait pas pourquoi. Et parfois on ne sait même pas comment prier. Alors on prie pour quelle est la consolation, mais on ne sait pas comment ces choses peuvent influencer les gens sur le long terme. On ne sait pas, dans certaines situations, est-ce qu'on prie pour que quelqu'un soit délivré d'un problème, mais peut-être que si elle est délivrée du problème, alors elle va se détourner de Dieu parce que tout va bien. Peut-être que la douleur va la garder proche de Dieu, ou peut-être que le fait d'être délivré va lui dire, faire dire « Ah, merci Dieu » et va l'amener à Dieu. Et on ne sait pas, face à ces choses, on ne sait pas quoi prier. Même dans nos vies, souvent on prie Dieu, on dit « J'aimerais bien... j'en sais rien, j'aimerais bien une... Dieu, j'ai besoin d'un nouvel appartement. » Et peut-être que j'ai un nouvel appartement... Et ça va me poser des problèmes, j'aurai des soucis avec le parce que je suis propriétaire de l'entretien et que je dois payer parce qu'il y a des dégâts ou j'en sais rien. Peut-être que je serais mieux en restant dans mon appartement actuel, ou peut-être que ce serait mieux dans le nouvel appartement. Et face à ça, alors on dit bon, mais je sais pas forcément, mais on essaye, on prie, mais dans bien des situations. On ne sait pas, et on a de l'aide. L'Esprit lui-même intercède pour nous, et l'Esprit connaît la volonté de Dieu et peut donc prier exactement ce dont nous avons besoin. C'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. C'est vraiment incroyable. Dieu nous donne l'Esprit Saint pour travailler en nous, avec nous, pour que nous devenions plus comme son Fils. On va le voir dans la suite. Il veut que nos vies changent, mais il nous donne aussi le moyen d'y arriver. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Verset 28. C'est un verset sur lequel qu'on a peut-être déjà entendu si vous êtes chrétien depuis un moment. C'est un verset qui revient souvent. C'est un verset qu'on aime se rappeler dans la difficulté. C'est un verset qu'on aime rappeler pour les gens, les frères et sœurs qui sont dans la difficulté. C'est aussi un verset qui est souvent mal cité. On dit ah oui, tout va bien finir, hein. On ira tous au paradis, comme dit la chanson. Mais on oublie parfois la suite du verset, le fait que ça contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alors Paul, en quelque sorte ici, il vient de nous dire. On est des enfants de Dieu, plutôt. Et il dit, le fait d'être enfant de Dieu, ça veut dire qu'on va prendre part à la gloire avec Jésus au ciel. Et puis il rajoute une petite parenthèse où il dit, si nous souffrons avec lui. Et en quelque sorte, il nous dit, voilà le package. Vous êtes enfant de Dieu, et être enfant de Dieu, ça veut dire que vous avez le droit à la gloire, mais ça veut aussi dire que vous avez le droit à des souffrances. Et il dit oui, et il y a des souffrances, il y a des difficultés, et l'Esprit va venir en aide, va nous aider dans ces choses. Et il dit mais de toute façon, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et le mot « tout », dans le texte original, il veut dire « tout ». C'est la blague de pasteur. Ça veut dire « tout », 100%, absolument tout ce qui vous arrive dans la vie, si vous aimez Jésus, si vous êtes appelé conformément à son plan, tout contribue, tout ce qui vous arrive dans la vie de bien et de mal, contribue à votre bien. Alors on va voir ce que c'est ce bien, mais tout. Et ça doit être quelque chose qui nous donne une paix et un espoir incroyable. On a juste avant, il dit, nous ne savons pas comment prier, mais nous savons que tout contribue au bien. Dans les situations d'incertitude, dans les tribulations, dans les difficultés, dans tous les moments difficiles de la vie, il y a bien souvent des moments où nous ne savons pas l'expliquer, nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas plein de choses, mais un réflexe qui doit devenir le nôtre en tant que chrétien, c'est de nous rappeler ce que nous savons. Ce que nous savons à propos de Dieu, ce que nous savons à propos de la parole de Dieu et de ce qu'elle nous explique à propos de nos vies et du fait que même dans toutes ces difficultés, tout contribue à notre bien. Et c'est difficile parfois de se rappeler ces choses et comme je disais, ça doit devenir un réflexe, on doit s'entraîner, on doit dire d'accord, c'est difficile et on ne veut pas minimiser les choses mauvaises qui peuvent nous arriver dans la vie. Ces choses, il y a énormément de choses qui sont extrêmement difficiles, qui sont douloureuses, qui sont mauvaises. Il y a le mal dans le monde, il y a la présence de Satan, du péché, de la corruption, et on ne veut pas prendre ça à la légère et dire oui, alors t'en fais pas, ça tout contribue à ton bien. On peut avoir de la compassion et souffrir et mesurer cette douleur et pas la minimiser, mais quand même se rappeler les vérités de Dieu et le fait que ces choses, d'une manière incroyable, d'une manière que nous ne comprenons pas, contribuent au bien. Alors, de qui il parle ? Il dit de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ici, on pourrait dire, est-ce que c'est deux groupes différents ? Non, c'est deux facettes d'un même groupe. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu dans leur vie, qui sont appelés selon son plan. Ce sont ceux qui ont entendu l'appel et qui répondent et qui obéissent. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et il s'agit des chrétiens. C'est pas deux choses, c'est deux aspects qui décrivent les chrétiens. Ceux qui sont appelés conformément à son plan, ça nous rappelle. Et dans cette situation, on peut lire et on peut dire, mais parfois mon amour est insuffisant. Parfois, souvent dans les chansons de louange, on dit Dieu, je t'aime, etc. Et moi, personnellement, j'ai toujours ce sentiment face à ces chansons de me dire, mais je sais bien qu'il y a des moments où peut-être mon amour est pas celui qu'il devrait être. Est-ce que je suis vraiment Mais la Bible nous explique et tout le passage ici avec Paul nous explique que c'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui nous aime, c'est le caractère de Dieu qui fait que nous allons tenir. Nous allons arriver au ciel parce que Dieu nous le garantit, parce que Dieu nous garde en sécurité en lui, malgré nos inconsistances, malgré notre faiblesse. C'est lui qui est le garant, qui est la solidité, qui est notre assurance. C'est pas quelque chose que nous faisons, c'est pas nos efforts, notre amour, etc., etc. Et donc ces deux aspects, c'est un petit peu comme Paul s'y disait, mais c'est ceux qui aiment Dieu, mais qui sont appelés par Dieu, c'est encore mieux que ce soit ceux qui sont les appelés en quelque sorte, parce que ça veut dire que ça dépend de tout est basé sur le caractère de Dieu. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui va garantir que nous sommes ceux pour qui tout contribue à notre bien. Qu'est-ce que ça veut dire le bien ici? Parce que là aussi, on lit ce verset souvent et on dit, bon, bah, tout contribue à notre bien. Donc si on m'a rayé la voiture ce matin, ça veut dire que j'aurai droit à 411 euros peut-être plus tard dans la journée, non? C'est un peu... On a souvent un regard très, très bas de gamme et très matérialiste sur ce verset où on se dit, ça va contribuer à mon bien, donc... Si mon patron m'engueule ou me dit quelque chose de mal, je vais me taire parce que je sais bien que j'aurai une promotion plus tard. C'est pas ce dont il est question ici. La question, c'est et la suite du texte. Quand on regarde le verset 29 où il dit en effet ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Le bien ici, c'est notre bien éternel. C'est notre bien. Final en quelque sorte, c'est le fait que nous devenions comme Jésus. Là aussi, c'est des fois difficile à. On se dit, mais être comme Jésus, c'est un peu bizarre. J'ai du mal personnellement à voir cette chose, mais à comprendre parfois. Je la comprends peut-être intellectuellement, mais la Bible nous explique que c'est ce pourquoi nous avons été créés et que c'est la plénitude complète de notre existence, de ce que nous pouvons être, c'est d'être comme Jésus. Et dans la Bible, il y a souvent des choses qui nous semblent un petit peu, le terme, je crois, grammatical, c'est antinomique ou une antinomie, c'est des choses où, si on les regarde côte à côte, on se dit c'est un peu bizarre. Si on les regarde indépendamment, on dit d'accord, je vais être comme Jésus, mais est-ce que je vais quand même être moi ou est-ce que je vais être un clone? Comment ça se... Et il y a un côté où on va être comme Jésus tout en ayant notre propre nous sommes nous, et en même temps on va être comme Jésus. Il y a les deux choses, c'est un petit peu comme le fait qu'il y a Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, et on se dit mais il est homme ou il est Dieu? Non, il est les deux pleinement, ou c'est peut-être la Trinité. C'est des choses où on a du mal à saisir, on va le voir après aussi avec l'idée de la prédestination où des fois on voit les deux choses en même temps et on se dit mais il y a la souveraineté de Dieu, mais il y a mon libre arbitre, et il y a ces deux choses qui existent en même temps et qui sont tous les deux vraies. Et notre bien, c'est que nous devenions conformes à l'image de Jésus, que nous soyons comme Jésus, tout en étant nous. Et cette idée de dire que tout contribue au bien, tout travaille ensemble pour notre bien, c'est quelque chose qui est un leitmotiv dans la Bible, dans toute la Bible. Quand vous lisez les histoires, on peut penser à quelques histoires. Il y a l'histoire de Joseph qui est célèbre, qui est vendu par ses frères comme un esclave. Ils étaient jaloux de lui et donc ils se disent on va se débarrasser de lui. Ils le vendent comme un esclave et il finit en Égypte où il devient important. Et le fait qu'il devienne important fait qu'à la fin, il va sauver sa propre famille qu'il avait vendue. Et il y a ce verset célèbre dans Genèse 50, verset 20, où il dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc on voit, c'est une histoire où il y a un mal qui est fait, mais qui est transformé en bien. Même si le mal était vraiment quelque chose d'horrible. On le voit dans l'église primitive, dans le livre des Actes et le Nouveau Testament, où Jésus donne le commandement d'aller dans toute la terre et de faire des disciples. Et les disciples et l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à Jérusalem. Ils sont bien au chaud, et là... Dieu permet la persécution et l'évangile se répand comme un feu de broussailles de par le monde. Et là aussi, la persécution qui est arrivée était vraiment mauvaise. C'est pas pour minimiser et dire non, finalement c'était quelque chose de positif. Non, c'était quelque chose de mauvais, mais en même temps, ça a contribué à quelque chose de bien. Et évidemment, l'exemple le plus important et le sommet de la Bible et de l'histoire de l'homme, c'est le mal qui a été fait à Jésus. C'est le fait que l'homme a tué Dieu. Et dans le cœur de ce moment-là, dans le cœur de cette chose horrible, Dieu a permis à ce que l'humanité soit sauvée. Et donc on voit dans la Bible que c'est toujours le cas, que Dieu il prend des choses qui sont mauvaises, qui sont horribles et qui sont dures, et d'une manière miraculeuse il en fait des choses bien. Et encore une fois, il faut pas lire ou dire ou tomber dans le piège de dire c'est des choses qui étaient pas finalement si mauvaises parce qu'on voit qu'elles ont produit quelque chose de bien. Non, c'est pas... On peut dire que ces choses sont mauvaises et en même temps que de manière miraculeuse, Dieu en fait quelque chose de bien. Et ça doit nous donner de l'espoir, ça doit nous donner de la paix, ça doit être quelque chose auquel on s'accroche, de se dire que Dieu travaille dans les circonstances de nos vies, si nous aimons Dieu, si nous avons répondu à son appel, il œuvre pour notre bien ultime. Et c'est, pour moi, là aussi, je lis ces passages et je vous dis ces choses-là, et je considère pas avoir souffert tant que ça dans ma vie. Et donc c'est plus facile pour moi peut-être de le dire. Je viens d'une position peut-être un peu... Je dis ça, et en même temps, avec vous, j'imagine, je me dis, mais quand les difficultés arrivent, c'est difficile. Et c'est intéressant de se rappeler qui était Paul, de se rappeler ce qu'il avait vécu, de se rappeler que lui avait souffert de manière... incroyable les coups qu'il avait pris. Il avait été lapidé et traîné en dehors du village et laissé pour mort. Moi, si on me donne un coup de poing, je me dis que je vais avoir mal, ou si je trébuche et que je tombe là, je vais... vous imaginez un peu la douleur. Je me suis fait mal à la cheville en jouant au foot. Et j'ai mis 2-3 mois à plus avoir mal à la cheville, quoi. Et vous imaginez quelqu'un comme Paul, qui était plus âgé, il n'y avait pas la médecine à l'époque, ce qu'il devrait souffrir, comment il devait souffrir dans son corps, comment il devait avoir mal tous les jours quand il se levait avec tout ce qu'il a enduré. Et lui, de pouvoir dire, et on va voir qu'il va crescendo dans ce passage, de dire non, toutes ces choses contribuent au bien. Verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ici, il y a une sorte de d'assurance. Il y a plein de choses à dire là sur ces deux versets où on les lit, on passe un petit peu dessus. On voit qu'il nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Et ce mot de prédestination, tout de suite, souvent nous fait poser un peu des questions et nous fait dire mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire la prédestination? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas libre dans nos vies de décider? C'est Dieu qui nous a prédestinés, donc au final, ce que je fais, etc., etc. Il y a toujours un petit peu de difficulté pour nous avec cette idée-là. L'idée simplement, c'est que Dieu, lui, est hors du temps, est au-dessus du temps, et que pour lui, prévoir, c'est voir. Lui, il regarde de haut, il voit tout ce qui se passe déjà, connaître ce qui sera. C'est pour lui, c'est connaître ce qui est déjà en quelque sorte. Et ici, c'est un petit peu. Alors, c'est une citation d'un commentaire sur le livre, enfin l'épître de Paul aux Romains, par Claire Lise de Benoît, qui dit que on a ici une sorte de décret que Dieu a émis de toute éternité. À savoir que ceux qui croiraient en son Fils, qu'il allait leur donner comme sauveur, qu'il s'engageait à les conduire à la gloire, c'est-à-dire à la conformité parfaite avec ce Fils, d'abord dans ses souffrances, puis dans sa gloire. Telle est la destinée à laquelle il a prédestiné tous ceux qui, librement, répondraient à son amour. Cela, il les a, dans sa préscience, connu d'avance comme croyant. Et donc dans cette idée de prédestination, dans cette idée-là, on, ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée d'antinomie, de choses qui, vues individuellement, nous semblent cohérentes, mais quand on les regarde ensemble, on se dit ça, elles s'opposent. Et il y a la souveraineté de Dieu, l'idée que c'est Dieu qui contrôle, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui dirige, et qui semble s'opposer à notre libre arbitre. L'idée que c'est nous qui décidons de ce que si nous voulons croire en Jésus ou pas. Et quand on regarde ces deux choses ensemble, on se dit ça semble être opposé. C'est Dieu qui décide ou c'est moi qui décide? C'est comment ça se passe? Et c'est un petit peu difficile pour nous. Et alors, on peut utiliser des illustrations pour essayer de comprendre. C'est des choses qui sont vraies toutes les deux en même temps. Une illustration qui permet peut-être de voir, c'est l'idée que Il y a un commentateur ou un écrivain chrétien, Tozer, qui utilisait l'idée d'un voyage en paquebot et qui disait, vous avez le paquebot qui est souverain, c'est lui qui décide de l'heure de départ, de l'endroit d'où il faut partir et de la destination, de la vitesse à laquelle ça va, de toutes ces choses-là. Donc, d'une certaine manière, c'est le paquebot qui est souverain. Et en même temps, les gens qui sont sur le paquebot, ils ont une liberté de faire ce qu'ils veulent pendant le voyage. Alors c'est une illustration. Les illustrations sont toujours limitées, ne permettent pas de voir complètement, donc ne prenez pas ça comme une explication scientifique. Tozer lui-même continuait et expliquait que nous devons abandonner notre passion pour une compatibilité systématique, de reconnaître l'existence du mystère et aussi de laisser Dieu être plus sage que les hommes. Et donc cette idée de prédestination, elle nous gêne. Une autre chose qu'on pourrait parler, c'est cette idée que l'idée ici, c'est d'être l'idée de la prédestination, c'est pas l'idée de la prédestination à la foi, c'est il nous prédestine à être conforme à l'image de son fils. C'est ce qui est dit dans le texte. Et donc l'idée, c'est ce que disait Claire-Lys de Benoît, c'est que quand nous croyons, ceux qui croient en Jésus, Dieu les a prédestinés à être conformes à l'image de son fils. C'est-à-dire qu'il dit, ceux qui vont croire en mon fils, le projet, c'est qu'ils ressemblent ensuite à mon fils. C'est ça l'idée qui est expliquée ici. Et ce passage, ces deux versets, on peut remarquer et se dire, c'est qui le sujet ici? C'est qui est actif ici? C'est Dieu. Il fait. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il a connu d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a déclarés justes, il leur a accordé la gloire. C'est lui qui fait. On voit 5 étapes. Dieu les connaît par avance, il les prédestine à être conformes à l'image de son fils, il les appelle, il les a déclarés justes et il leur a accordé la gloire. Et c'est intéressant parce que ce sont 5 étapes qui semblent être au passé. Et nous, on peut se dire, nous ne sommes pas encore glorifiés. Mais d'une certaine manière, dans la réalité spirituelle, si. Et là aussi, je vous avoue que je dis ça et j'y comprends pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que la Bible nous dit que nous sommes en Christ, que nous sommes cachés en lui, et que lui est assis à la droite du Père et est glorifié. Et il y a une sorte d'union spirituelle, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel qui est vrai. Et on pourrait, certains des commentateurs disaient, donc on est connu, on est prédestiné à être conforme à l'image de son fils, on est appelé, on est déclaré juste, et puis on se dit, mais normalement dans les étapes de ce qu'on comprend de la vie chrétienne, il y a la sanctification normalement, non? Après il y a tout ce qui doit se faire dans notre vie ici, on n'est pas encore glorifié, on n'a pas encore atteint l'état parfait que Dieu a pour nous, on n'est pas encore complètement à l'image de Jésus. Et une suggestion d'un commentateur, F.F. Bruce, c'est que la sanctification, c'est le début de la glorification. Et que la glorification achevée, c'est d'une certaine manière la sanctification achevée, et que c'est une sorte de, ce sont un peu les deux mêmes choses, mais à des stades plus ou moins avancés. Et ça doit nous donner là aussi une assurance et une paix que Dieu a fait toutes ces choses, que nous répondons par la foi en Jésus, nous acceptons le sacrifice de Jésus. Et ensuite, il s'occupe de toutes ces choses et il dit, voilà ce que je fais maintenant. Ceux qui ont cru en mon fils, voilà ce que j'ai fait pour eux au passé. C'est fait. Et ça va amener Paul, au verset 31, à partir dans une sorte de chant de louange presque, où il s'exprime avec des questions rhétoriques, où il parle des évidences et de toute la bonté de ce que Dieu a fait pour nous, et qu'avec toutes ces choses, personne ne peut nous empêcher d'arriver au ciel, que personne ne peut briser notre relation avec Dieu. J'ai trouvé très intéressant, il y a un livre par un théologien pasteur qui s'appelle Alfred Quinn, qui a écrit une encyclopédie qui s'appelle l'encyclopédie des difficultés bibliques. Et donc il a c'est en plusieurs tomes, c'est un truc pour pasteur ou pour les théologiens, où il sur un verset il va avoir 4 pages de commentaires relatés avec peut-être que ça veut dire ça, peut-être dans le grec et dans telle traduction il y avait. Donc c'est très pointu et très détaillé, et il a plein de choses. comme je vous disais, il a des tomes entiers, et les versets 31 à 39, il n'y avait rien. Comme si c'était tellement évident, que c'est tellement clair, que les versets qui sont expliqués ici sont tellement parlent d'elles-mêmes qu'il n'y a pas de difficulté. C'est comme s'il disait non, non. Oui, alors si vous regardez au verset les passages avant, il y avait 10 pages, et puis on arrive au verset 31 à 39, il n'y a pas un mot. J'ai trouvé ça assez marrant. J'ai pas vérifié s'il y avait des pages arrachées, je crois pas, mais. Ces versets sont, on va les lire. Je voulais juste vous lire avant un commentaire aussi d'un commentateur, pasteur aussi, Richard Doulière, pour revenir sur tout le passage. Et il dit, lorsqu'on a reconnu l'appui de l'esprit dans la faiblesse, l'accomplissement du dessein de Dieu à travers les circonstances les plus diverses de la vie, l'incommensurable grandeur du but final de Dieu pour ses enfants, alors le triomphe est possible à travers les souffrances, même les plus difficiles. Et c'est ce que nous voyons dans ces versets 31 à 39. Il dit, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 31, il dit, que dirons-nous donc de plus ? À propos de quoi? Des souffrances du temps présent, de l'attente que nous avons, de nos soupirs ou de notre faiblesse, ou est-ce que c'est à propos de son plan merveilleux pour nous? Souvent, on aime penser, et les gens dans le monde nous disent, si Dieu m'aimait, il accepterait pas que telle ou telle chose arrive. On a cette pensée de se dire, mais si Dieu vraiment est amour, alors pourquoi est-ce que... etc. Et Paul, c'est un petit peu comme s'il changeait l'ordre et dit... Si Dieu nous destine à une telle gloire, ce qu'on voit avant, alors combien son amour pour nous doit être incroyable. Et il dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a pas d'opposition possible. Et c'est une question évidente, mais est-ce que nous avons de l'opposition dans nos vies? Oui, il y a l'opposition, il y a les ennemis de Dieu, il y a les gens qui s'opposent aux croyants, il y a Satan, il y a même notre chair avec laquelle nous luttons. Mais si Dieu est avec nous, alors toutes ces choses ne sont rien en comparaison. En retournant cette question, si Dieu est contre quelqu'un, c'est une chose terrible. Et on le voit dans l'Ancien Testament qu'il y a des moments, souvent en parlant de nation et à certains moments contre la nation d'Israël, où Dieu dit « Je suis contre vous ». Et si Dieu n'est pas pour nous, Dieu est contre quelqu'un, c'est terrible aussi, parce qu'il n'y a pas d'issue possible. C'est intéressant de réfléchir si Dieu est pour nous, il y a le mot si. Il y a beaucoup de foi, de religion dans le monde, et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils font la volonté de Dieu, qui pensent que ce qu'ils font est pour Dieu. Alors peut-être pas dans le cadre, mais Dieu est pour ceux qui croient en son Fils et qui l'aiment et qui sont appelés conformément à son plan. C'est pour nous, ça doit être une source d'assurance et quelque chose qui nous rassure, mais ça doit aussi être quelque chose qui nous fait réfléchir et qui nous donne envie, qui me donne envie de prévenir les autres. Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Il n'y aura pas de manque. Nous n'allons pas arriver au ciel et Dieu va dire « Ah oui, j'ai oublié de te préparer un lit, toi. » C'est un petit peu comme si vous participiez à un concours. Imaginez, vous participez à un concours, j'en sais rien, à la télé, ou vous envoyez un texto là, pendant les matchs de foot, ils vous posent des questions, il faut envoyer un texto pour qu'ils puissent gagner de l'argent eux, et des fois vous pouvez peut-être gagner une voiture. Imaginez, vous gagnez la voiture, et puis on vous dit « Ah non, mais par contre, faut que vous payiez vous les roues, et puis on ne vous a pas donné de clé. » Non, c'est ridicule. Si on vous dit « Vous avez gagné la voiture, on va vous donner ce qu'il faut pour les choses petite en comparaison, quoi. Et ici, c'est comme ça. Dieu a donné le truc le plus cher, le plus précieux qu'il pouvait donner. Donc les autres choses dont nous avons besoin, il va nous les donner. Il raisonne du plus au moins. Rien ne va nous manquer. Il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Verset 33, « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. » Il n'y a plus d'accusation qui tienne. Nous avons il y a des choses qui nous accusent. Satan, il est dit, est l'accusateur des frères. Il essaie de dire « Ah, lui, il a péché, lui, il n'est pas bien. » La loi peut nous accuser, notre conscience peut nous accuser quand nous péchons, quand nous tombons, qu'il y a des moments où nous ne faisons pas ce qu'il faut. Même peut-être des personnes qui ont été offensées par nous, qui peuvent en quelque sorte nous accuser. Mais la Bible nous dit que en croyant en Jésus, on bénéficie de la défense de Dieu. C'est Dieu qui nous déclare juste. Satan a la bouche fermée, il s'est fait écraser la tête, la Bible nous dit. La loi a la bouche fermée, ne peut plus nous accuser parce que ses exigences ont été satisfaites par Jésus à la croix. Notre conscience doit avoir la bouche fermée parce que nous devons avoir la paix et l'assurance en Jésus-Christ pour nos vies. Et les personnes qui ont été offensées ne peuvent pas nous accuser parce que le premier offensé, celui qui était vraiment offensé, c'est Dieu et lui nous pardonne. C'est lui le juge et il nous déclare juste et donc il ne peut plus y avoir d'accusation qui tienne. Et verset 34, qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On avait ouvert le chapitre 8 en disant, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc quand il pose cette question, c'est qui les condamnera ? Personne. Christ est mort pour satisfaire la justice de Dieu et pour ne pas être obligé de nous condamner. Christ est ressuscité en signe de l'acquittement de notre dette et pour nous communiquer une vie nouvelle. Christ est assis à la droite de Dieu en signe de son œuvre parfaitement achevée et il nous a donné le Saint-Esprit et il intercède pour nous, il plaide notre cause devant Dieu. Il est assis à la droite de Dieu à prier pour nous et à dire « Dieu, regarde, j'ai payé pour lui. Regarde mon sang, ça couvre tout ce qui peut y avoir comme chose que les gens peuvent élever comme accusation ou que Satan pourrait amener ou que quoi que ce soit. Non, regarde, je suis là pour lui. C'est moi qui couvre. » Et il continue au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et l'idée, c'est rien. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Il n'y a pas de séparation possible pour nous avec l'amour de Jésus. Et ici aussi, c'est une question qui doit nous faire réfléchir et quelque chose que nous devons nous rappeler quand nous sommes dans ces situations. Ces choses qui sont décrites de la détresse, des angoisses, la persécution. Nous, moi j'ai pas trop faim, je souffre pas trop de la faim, mais je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à endurer. Le dénuement, quand on n'a rien, nous dans le monde occidental, même les gens qui ont rien, ils ont l'État qui leur pourvoit beaucoup plus que beaucoup de gens de par le monde. Et le danger ou l'épée, c'est l'idée de la mise à mort physique. Et toutes ces choses, on lit ce verset 35 dans cette euphorie avec Paul et on passe dessus. Mais ce sont des choses vraiment terribles et vraiment difficiles et où on pourrait dire, mais on pourrait peut-être être tenté de dire un petit peu comme peut-être Jésus a crié à la croix, où es-tu? Est-ce que je suis séparé de ton amour, Dieu? Et Paul dit non, rien, toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Jésus. Et nous devons nous en rappeler dans les difficultés. Verset 36, « De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » C'est une citation du psaume 44. C'est David qui dit ça, et d'une certaine manière, il dit, mais il est écrit ça, on souffre, on est dans la difficulté, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et au verset 37, il dit au contraire, on peut souffrir ces choses dans le monde physique, mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle méditer. Nous avons une plus grande puissance que ce qui peut nous faire du mal dans le monde. Nous avons la puissance de Jésus dans nos vies. Nous avons une meilleure motivation. C'est une meilleure récompense en vue. C'est la gloire, le fait d'être co-héritier avec Christ. Nous avons une plus grande victoire que des gens qui peuvent être considérés comme vainqueurs dans le monde. Souvent, dans un combat, on perd des choses dans le monde. Mais Dieu nous garantit que nous n'allons rien perdre du tout. Tout ce que nous pouvons souffrir, nous n'allons rien perdre. Nous n'allons pas arriver au ciel et être j'ai perdu un bras et je suis. Non, on tout ce qui peut nous arriver ici ne va pas nous faire perdre quoi que ce soit de notre héritage, de la gloire, de ce que Dieu a, de ce bien que Dieu a pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Verset 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand nous avons la bonne perspective, quand nous sommes conscients des réalités spirituelles, alors nous devons avoir l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien ne peut casser notre relation avec lui, rien ne peut empêcher ce que Dieu a prévu pour nous en tant que croyants, le bien qu'il a prévu pour nous. Toutes les choses qui nous arrivent contribuent à ce bien. Toutes ces choses sont utilisées, sont retournées, sont changées pour que ce que Dieu a prévu pour nous arrive. Et nous devons avoir l'assurance de cette chose, de cette vérité. Et on remarque que Paul, plutôt dans le chapitre 8, parlant de la gloire, au verset 18, il dit « j'estime ». C'était un peu « bon, j'estime » si on regarde, mais ici il dit « j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie » La mort, ça peut être très difficile, ça peut être quelque chose qu'on craint, évidemment, la mort physique. Parfois, la vie peut-être plus dure. On a peut-être des situations où on se dit, mais peut-être, je ne sais pas si je vais y arriver, si dans telle circonstance, dans telle situation, dans telle souffrance, est-ce que je vais y arriver. La vie, parfois, peut sembler plus difficile que la mort. Et ni la mort, ni la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les anges, ni les dominations. C'est un petit peu comme s'il raisonnait avec des idées absurdes. Il disait même si des anges, qui sont les serviteurs de Dieu, même si eux se mettaient bizarrement, si on imaginait par exemple qu'ils venaient à essayer de nous faire quelque chose, ils ne pourraient pas nous séparer de l'amour de Jésus. Ni les dominations, les puissances spirituelles, les choses qui sont dans ces réalités spirituelles qui existent, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ni le présent, ni l'avenir, les choses qui sont vraies pour nous aujourd'hui ou les choses qui vont arriver. Encore une fois, nous avons une position solide en Jésus et nous n'avons pas à avoir peur de ce qui peut nous arriver, de notre, comme je vous disais, on sait que notre amour et nos capacités, on se dit, mais Dieu, je suis inconstant, je suis pas, je sais bien que face à certaines situations, je ne sais pas comment je réagirai. Mais lui, il dit non, c'est moi qui vous garde, c'est moi qui vous ai déclaré juste, c'est moi qui vous ai glorifié avec mon Fils, c'est moi qui m'occupe de ça, c'est moi qui vous garde. Ni la hauteur, ni la profondeur. Il y a des idées de tout ce qui peut avoir de dans l'espace, en quelque sorte, dans tout l'univers. En lisant ça et en lisant un petit peu les commentateurs, je me disais, c'est un petit peu, imaginons qu'on découvre demain qu'il y a une autre planète où il y a des aliens, en raisonnant par des choses bizarres. Ces choses, ces créatures restent des créatures de Dieu dans l'univers. Même si on en trouve, ces choses ne pourront pas nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous croyez en Jésus, vous l'aimez, vous voulez garder ses commandements, vous avez répondu à son appel, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Je vous encourage à relire ces versets, à mettre devant Dieu les choses avec lesquelles vous luttez, les choses qui vous accusent, les choses où vous avez l'impression, ah Dieu, je suis pas... Les choses où vous avez peur peut-être qu'elles vous éloignent de Dieu, ou le futur, les incertitudes, que vous réfléchissiez à ces choses et que vous dites ces choses ne peuvent pas affecter ma position, ma relation avec Jésus-Christ. C'est bon. et à baigner dedans, à dire Jésus merci. Prions. Seigneur, merci parce que tu as tout fait pour nous. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous répondons à ton appel, Seigneur. Nous voulons croire en toi. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te suivre, garder tes commandements, Seigneur. Mais tu t'occupes de garantir notre position en toi, notre relation avec toi, Seigneur. Tu nous as connus par avance. Tu nous as appelés. Tu nous as prédestinés à devenir comme toi, tu nous justifies et tu nous glorifies, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons avoir les yeux ouverts, les yeux de nos cœurs, Seigneur, ouverts à ces réalités spirituelles, à accepter, à croire ces vérités, Seigneur, que tu nous annonces dans ta parole pour qu'elle transforme nos vies, Seigneur. Aide-nous à reconnaître comme vrai, comme sûr, ces choses qui parfois nous semblent difficiles parce que nous ne les voyons pas avec nos yeux physiques, Seigneur. Donne-nous une assurance, Seigneur, une paix, une joie en toi, Seigneur, à cause de ta grâce, Seigneur, à cause de ton esprit dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce passage, merci pour ce chapitre 8, Seigneur. Seigneur, et si certains parmi nous, ou si des amis, des parents, des gens qui sont autour de nous, Seigneur, ne te connaissent pas, aide-nous à t'annoncer, Seigneur, à communiquer ces vérités, leurs besoins de toi, Seigneur. Les réalités spirituelles, Seigneur, que sans toi, les hommes sont perdus, Seigneur. Que ces personnes, Seigneur, viennent à toi et croient en toi. Que tu puisses dire que tu les as connus d'avance, Seigneur, grâce à leur réponse à ton appel, Seigneur. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce passage, merci pour ta parole. Donne-nous soif, Seigneur, de ta parole. Aide-nous à avoir plus faim, plus soif de toi, de ce qui est marqué dans ta parole, d'y réfléchir, de méditer, Seigneur, d'obéir à ces choses, parce qu'elles sont merveilleuses, parce que tu es merveilleux, Seigneur, et parce que ta parole nous révèle qui tu es, nous permet d'avoir cette relation avec toi, Seigneur. Tu es tellement bon envers nous. Merci, Papa. Amen.